Chapitre 7, Castor et Pollux, écouter est le meilleur moyen pour entendre. Le roi avait congédié tous les favoris, en même temps qu'il retenait son frère. Le duc d'Anjou, qui, pendant toute la scène précédente, avait réussi à conserver l'attitude d'un homme indifférent, excepté aux yeux de Chicot et du duc de Guise, accepta sans défiance l'invitation de Henri. Il n'avait aucune connaissance de ce coup d'œil que le Gascon lui avait fait envoyer par le roi et qui avait surpris son doigt indiscret trop près de ses lèvres. « Mon frère, dit Henri, après s'être assuré qu'à l'exception de Chicot, personne n'était resté dans le cabinet, et en marchant à grands pas de la porte à la fenêtre, « savez-vous que je suis un prince bien heureux ?»« Sire, dit le duc, le bonheur de votre majesté, si véritablement votre majesté se trouve heureuse, n'est qu'une récompense que le ciel doit à ses mérites. » Henri regarda son frère. « Oui, bien heureux, dit-il, car lorsque les grandes idées ne viennent pas à moi, elles viennent à ceux qui m'entourent. Or, c'est une grande idée que celle que vient d'avoir mon cousin de Guise. » Le duc s'inclina en signe d'assentiment. Chicot ouvrit un œil, comme s'il n'entendait pas si bien les deux yeux fermés, et comme s'il avait besoin de voir le visage du roi pour mieux comprendre ses paroles. « En effet, continua Henri, réunir sous une même bannière tous les catholiques, faire du royaume l'Église, armer ainsi, sans en avoir l'air, toute la France, depuis Calais jusqu'au Languedoc, depuis la Bretagne jusqu'à la Bourgogne, de manière que j'ai toujours une armée prête à marcher contre l'Anglais, le Flamand ou l'Espagnol, sans que jamais le Flamand, l'Espagnol ni l'Anglais puissent s'en alarmer. Savez-vous, François, que c'est là une magnifique pensée ?» N'est-ce pas, sire, dit le duc d'Anjou, enchanté de voir que son frère abondait dans les vues de son allié, le duc de Guise. Oui, et j'avoue que je me sens porté de tout mon cœur à récompenser largement l'auteur d'un si beau projet. Chicot ouvrit les deux yeux, mais il les referma aussitôt. Il venait de surprendre sur la figure du roi un de ses imperceptibles sourires, visible pour lui seul, qui connaissait son Henri mieux que personne, et ce sourire lui suffisait. « Oui, continua le roi, je le répète, un tel projet mérite récompense, et je ferai tout pour celui qui l'a conçu. Est-ce véritablement le duc de Guise, François, qui est le père de cette belle idée, ou plutôt de cette belle œuvre, car l'œuvre est commencée, n'est-ce pas, mon frère ?» Le duc d'Anjou fit signe qu'effectivement, la chose avait reçu un commencement d'exécution. « De mieux en mieux, reprit le roi, j'avais dit que j'étais un prince bien heureux, j'aurais dû dire trop heureux, François, puisque non seulement ces idées viennent à mes proches, mais encore que, dans leur empressement à être utile à leur roi et à leurs parents, ils exécutent ces idées. » « Mais je vous ai déjà demandé, mon cher François, dit Henri, en posant sa main sur l'épaule de son frère, je vous ai déjà demandé si c'était bien à mon cousin de Guise que je devais être reconnaissant de cette royale pensée. Non, sire, le cardinal de Lorraine l'avait déjà eu il y a plus de 20 ans, et la Saint-Barthélemy seul a empêché l'exécution, ou plutôt, momentanément, en a rendu l'exécution inutile. » Ah, quel malheur que le cardinal de Lorraine soit mort, dit Henri, je l'aurais fait papéfier à la mort de sa sainteté Grégoire XIII. Mais il n'en est pas moins vrai, continua Henri, avec cette admirable bonhomie qui faisait de lui le premier comédien de son royaume, il n'en est pas moins vrai que son neveu a hérité de l'idée et l'a fait fructifier. Malheureusement, je ne peux pas le faire pape, lui, mais je le ferai... Qu'est-ce que je pourrais donc le faire qu'il ne fût pas, François ? Sire, dit François, complètement trompé aux paroles de son frère, vous vous exagérez les mérites de votre cousin. L'idée n'est qu'un héritage, comme je vous l'ai déjà dit, et un homme l'a fort aidé à cultiver cet héritage. Son frère le cardinal, n'est-ce pas ? Sans doute, il s'en est occupé, mais ce n'est point lui encore. « C'est donc Mayenne ? Oh, sire, dit le duc, vous lui faites trop d'honneur. C'est vrai. Comment supposer qu'une idée politique vînt à un pareil boucher? Mais à qui donc dois-je être reconnaissant de cette aide donnée à mon cousin de Guise, François? À moi, sire, dit le duc. À vous? Fit Henri, comme s'il était au comble de l'étonnement. Chicot ouvrit un œil. Le duc s'inclina. Comment, dit Henri, quand je voyais tout le monde déchaîné contre moi, les prédicateurs contre mes vices, les poètes et les faiseurs de pasquilles contre mes ridicules, les docteurs en politique contre mes fautes, tandis que mes amis riaient de mon impuissance, tandis que la situation était devenue si complexe que je maigrissais à vue d'œil et me faisais des cheveux blancs chaque jour, une idée pareille vous est venue, François, à vous que, je dois l'avouer, tenez, l'homme est faible et les rois sont aveugles, à vous que je ne regardais pas toujours comme mon ami. Ah, François, que je suis coupable! Et Henri, attendri jusqu'aux larmes, tendit la main à son frère. Chicot rouvrit les deux yeux. « Oh, mais, continua Henri, c'est que l'idée est triomphante. Ne pouvant lever l'impôt, ni lever de troupes sans faire crier, ne pouvant me promener, dormir, ni aimer sans faire rire, voilà que l'idée de Monsieur de Guise, ou plutôt la vôtre, mon frère, me donne à la fois armée, argent, amis et repos. Maintenant, pour que ce repos dure, François, une seule chose est nécessaire. Laquelle ? Mais mon cousin a parlé tout à l'heure de donner un chef à tout ce grand mouvement. Oui, sans doute. Ce chef, vous le comprenez bien, François, ce ne peut être aucun de mes favoris. Aucun n'a à la fois la tête et le cœur nécessaires à une si grande fortune. Quélus est brave, mais le malheureux n'est occupé que de ses amours. Maugiron est brave, mais le vaniteux ne songe qu'à sa toilette. Schomberg est brave, mais ce n'est pas un profond esprit, ses meilleurs amis sont forcés de l'avouer. D'Épernon est brave, mais c'est un franc hypocrite à qui je ne me fierai pas un seul instant, quoique je lui fasse bon visage. Mais vous le savez, François, dit Henri, avec un abandon croissant, c'est une des plus lourdes charges des rois que d'être forcé sans cesse de dissimuler. Aussi, tenez, ajouta Henri, quand je puis parler à cœur ouvert comme en ce moment, ah, je respire. Chicot referma les deux yeux. Eh bien, je disais donc, continua Henri, que si mon cousin de Guise a eu cette idée, idée au développement de laquelle vous avez pris si bonne part, François, c'est à lui que doit revenir la charge de la mettre à exécution. Que dites-vous, sire? S'écria François, haletant d'inquiétude. Je dis, pour diriger un pareil mouvement, il faut un grand prince. Sire, prenez garde. Un bon capitaine, un adroit négociateur. Un adroit négociateur surtout, répéta le duc. Eh bien, François, est-ce que ce poste, sous tous les rapports, ne convient pas à monsieur de Guise? Voyons. Mon frère, dit François, monsieur de Guise est bien puissant déjà. Oui, sans doute, mais c'est sa puissance qui fait ma force. Le duc de Guise tient l'armée et la bourgeoisie, le cardinal de Lorraine tient l'église, Mayenne est un instrument aux mains des deux frères, vous allez réunir bien des forces dans une seule maison. C'est vrai, dit Henri, j'y avais déjà songé, François. Mais si les Guises étaient princes français encore, cela se comprendrait, leur intérêt serait de grandir la maison de France. Sans doute, mais tout au contraire, ce sont des princes lorrains. D'une maison, toujours en rivalité avec la nôtre. Ah, tenez, François, vous venez de toucher la plaie, tu Dieu, je ne vous croyais pas si bon politique. Eh bien oui, voilà ce qui me fait maigrir, ce qui me fait blanchir les cheveux. Tenez, c'est cette élévation de la maison de Lorraine à côté de la nôtre. Il ne se passe de jour, voyez-vous, François, que ces trois Guises, ah, vous l'avez bien dit, à eux trois, ils tiennent tout. Il n'y a pas de jour que, soit le duc, soit le cardinal, soit Mayenne, l'un ou l'autre, enfin, par audace ou par adresse, soit par force, soit par ruse, ne m'enlève quelque lambeau de mon pouvoir, quelque parcelle de mes prérogatives, sans que moi, pauvre, faible et isolé comme je suis, je puisse réagir contre eux. Ah, François, si nous avions eu cette explication plus tôt, si j'avais pu lire dans votre cœur comme j'y lis en ce moment, certes, trouvant en vous un appui, j'eusse résisté mieux que je ne l'ai fait. Et maintenant, voyez-vous, il est trop tard. Pourquoi cela? Parce que ce serait une lutte, et qu'en vérité, toute lutte me fatigue. Je le nommerai donc chef de la ligue. Eh, vous aurez tort, mon frère, dit François. Mais qui voulez-vous que je nomme, François? Qui acceptera ce poste périlleux? Oui, périlleux, car ne voyez-vous pas quelle était son idée au duc? C'était que je le nomme chef de cette ligue. Eh bien, tout homme que je nommerai à sa place deviendra son ennemi. Mais nommer un homme assez puissant pour que sa force appuyée à la vôtre n'ait rien à craindre de la force et de la puissance de nos trois Lorrains réunis. Eh, mon bon frère, dit Henri, avec l'accent du découragement, je ne sais aucune personne qui soit dans les conditions que vous dites. Regardez autour de vous, sire. Autour de moi, mais je ne vois que vous et Chicot, mon frère, qui soyez véritablement mes amis. Oh, murmura Chicot, est-ce qu'il voudrait me jouer quelque mauvais tour? Et il referma ses deux yeux. Eh bien, dit le duc, vous ne comprenez pas, mon frère? Henri regarda le duc d'Anjou comme si un voile venait de lui tomber des yeux. Eh quoi? S'écria-t-il. François fit un mouvement de tête. Mais non, dit Henri, vous n'y consentirez jamais, François. La tâche est trop rude. Ce n'est pas vous, certainement, qui vous habitueriez à faire faire l'exercice à tous ces bourgeois. Ce n'est pas vous qui vous donneriez la peine de revoir les discours de leurs prédicateurs. Ce n'est pas vous qui, en cas de bataille, iriez faire le boucher dans les rues de Paris, transformé en abattoir. Il faut être triple comme Monsieur de Guise et avoir un bras droit qui s'appelle Charles et un bras gauche qui s'appelle Louis. Or, le duc a fort bien tué le jour de la Saint-Barthélemy. Que vous en semble, François? Trop bien tué, si. Oui, peut-être, mais vous ne répondez pas à ma question, François. Quoi, vous aimeriez faire le métier que je viens de dire? Vous vous frotteriez aux cuirasses faussées de ces badauds et aux casseroles qu'ils se mettent sur le chef en guise de casque, quoi? Vous vous feriez populaire, vous, le suprême seigneur de notre cour. Mort de ma vie, mon frère, comme on change avec l'âge. Je ne ferais peut-être pas cela pour moi, sire, mais je le ferais certes pour vous. Ah, bon frère, excellent frère, dit Henri, en essuyant du bout du doigt une larme qui n'avait jamais existé. Donc, dit François, cela ne vous déplairait pas trop, Henri, que je me chargeasse de cette besogne que vous comptiez confier à monsieur de Guise? Me déplaire à moi? S'écria Henri. Oh, corne du diable, non, cela ne me déplaît pas, cela me charme au contraire. Ainsi, vous aussi, vous aviez pensé à la ligue. Ah, tant mieux, mordieu, tant mieux. Ainsi, vous aussi, vous aviez eu un petit bout de l'idée, que dis-je, un petit bout, le grand bout. D'après ce que vous m'avez dit, c'est merveilleux, sur ma parole. Je ne suis entouré, en vérité, que d'esprits supérieurs, et je suis le grand âne de mon royaume. Votre Majesté raille. Moi, Dieu m'en préserve, la situation est trop grave. Je le dis comme je le pense, François. Ah, vous me tirez d'un grand embarras, d'autant plus grand que depuis quelque temps, voyez-vous, François, je suis malade, mes facultés baissent. Miron m'explique cela souvent. Mais allez, voyons, revenons à la chose sérieuse. D'ailleurs, qu'ai-je besoin de mon esprit si je puis m'éclairer à la lumière du vôtre? Nous disons donc que je vous nommerai chef de la ligue, hein? François tressaillit de joie. Oh, dit-il, si votre majesté me croyait digne de cette confiance. Confiance, ah, François, confiance. Du moment que ce n'est pas monsieur de Guise qui en est le chef, de qui veux-tu que je me défie? De la ligue elle-même? Est-ce que par hasard la ligue me mettrait en danger? Parle, mon bon François, dis-moi tout. Oh, sire, fit le duc. Que je suis fou, reprit Henri. Dans ce cas, mon frère n'en serait pas le chef. Ou mieux encore, du moment où mon frère en serait le chef, il n'y aurait plus de danger. Hein, c'est de la logique, cela. Et notre pédagogue ne nous a pas volé notre argent. Ah, non, ma foi, je n'ai pas de défiance. D'ailleurs, je connais encore assez d'hommes d'épée en France pour être sûr de dégainer en bonne compagnie contre la ligue le jour où la ligue me gênera trop les coudes. C'est vrai, sire, répondit le duc avec une naïveté presque aussi affectée que celle de son frère. Le roi est toujours le roi. Et Chicot rouvrit un œil. Hein, par Dieu, dit Henri, mais malheureusement, à moi aussi, il me vient une idée. Ah, c'est incroyable combien il en pousse aujourd'hui, il y a des jours comme cela. Quelle idée, mon frère ? Demanda le duc, déjà inquiet, parce qu'il ne pouvait pas croire qu'un si grand bonheur s'accomplit sans empêchement. Eh, notre cousin de Guise, le père, ou plutôt celui qui se croit le père de l'invention, notre cousin de Guise s'est probablement bouté dans l'esprit d'en être le chef. Il voudra aussi du commandement. Du commandement, sire. Mais sans doute, sans aucun doute même, il n'a probablement nourri la chose que pour que la chose lui profitât. Il est vrai que vous dites l'avoir nourri avec lui. Ah, prenez garde, François, ce n'est pas un homme à être victime du « sic vos non vobis ». Vous connaissez Virgile, « nidificatis aves ». Oh, sûr. François, je gagerais qu'il en a la pensée. Il me sait si insoucieux. « Oui, mais du moment où vous lui aurez signifié votre volonté, il cédera. »« Ou fera semblant de céder. Et je vous l'ai déjà dit, prenez garde, François, il a le bras long, mon cousin de Guise. Hein, je dirais même plus, je dirais qu'il a les bras longs, et que pas un dans le royaume, pas même le roi, ne toucherait comme lui en les étendant d'une main aux Espagnes et de l'autre à l'Angleterre, à Don Juan d'Autriche et à Élisabeth. » Bourbon avait l'épée moins longue que mon cousin de Guise n'a le bras, et cependant il a bien fait du mal à François Ier, notre aïeul. Mais, dit François, si votre majesté le tient pour si dangereux, raison de plus pour me donner le commandement de la Ligue, pour le prendre entre mon pouvoir et le vôtre, et alors à la première trahison qu'il entreprendra, pour lui faire son procès. Chicot rouvrit l'autre œil. « Son procès, François, son procès, c'était bon pour Louis XI, qui était puissant et riche, de faire des procès et de faire dresser des échafauds. Mais moi, je n'ai même pas assez d'argent pour m'acheter tout le velours noir dont, en pareil cas, je pourrais avoir besoin. » En disant ces mots, Henri, qui, malgré sa puissance sur lui-même, s'était animé sourdement, laissa percer un regard dont le duc ne put soutenir l'éclat. Chicot referma les deux yeux. Il se fit un silence d'un instant entre les deux princes. Le roi le rompit le premier. « Il faut donc tout ménager, mon cher François, dit-il. Pas de guerre civile, pas de querelle entre mes sujets. Je suis fils de Henri le batailleur et de Catherine la rusée. J'ai un peu de l'astuce de ma bonne mère. Je vais faire rappeler le duc de Guise, et je lui ferai tant de belles promesses que nous arrangerons votre affaire à l'amiable. « Sire, s'écria le duc d'Anjou, vous m'accordez le commandement, n'est-ce pas ? Je le crois bien. Vous tenez à ce que je l'ai. Énormément. Vous le voulez, enfin ? C'est mon plus grand désir, mais il ne faut pas cependant que cela déplaise trop à mon cousin de Guise. » Oh, « eh bien, soyez tranquille, dit le duc d'Anjou, si vous ne voyez à ma nomination que cet empêchement, oh, je me charge, moi, d'arranger la chose avec le duc. »« Et quand cela ? Tout de suite. Vous allez donc aller le trouver, vous allez donc lui rendre visite. Oh, mon frère, songez-y, l'honneur est bien grand. »« Non pas, sire, je ne vais pas le trouver. »« Comment cela ? Il m'attend. »« Où ? Chez moi. » « Chez vous, j'ai entendu les cris qui ont salué sa sortie du Louvre. Oui, mais après être sorti par la grande porte, il sera rentré par la poterne. Le roi avait droit à la première visite du duc de Guise, mais j'ai droit, moi, à la seconde. « Ah, mon frère, dit Henri, que je vous sais gré de soutenir ainsi nos prérogatives, que j'ai la faiblesse d'abandonner quelquefois. Allez donc, François, et accordez-vous. » Le duc prit la main de son frère et s'inclina pour la baiser. « Que faites-vous, François, dans mes bras, sur mon cœur ? » s'écria Henri. « C'est là votre véritable place. » Et les deux frères se tinrent embrassés à plusieurs reprises, puis, après une dernière étreinte, le duc d'Anjou, rendu à la liberté, sortit du cabinet, traversa rapidement les galeries et courut à son appartement. Il fallait que son cœur, comme celui du premier navigateur, fût cerclé de chaînes et d'acier pour ne pas éclater de joie. Le roi, voyant son frère parti, poussa un grincement de colère et, s'élançant par le corridor secret qui conduisait à la chambre de Marguerite de Navarre, devenue celle du duc d'Anjou, Il gagna une espèce de tambour d'où l'on pouvait entendre aussi facilement l'entretien qui allait avoir lieu entre les ducs d'Anjou et de Guise que Denis, en sa cachette, pouvait entendre la conversation de ses prisonniers. Ventre de biche, dit Chicot, en rouvrant ses deux yeux à la fois et en s'asseyant sur son derrière, que c'est touchant, les scènes de famille. Je me suis cru un instant dans l'Olympe, assistant à la réunion de Castor et Pollux après leurs 6 mois de séparation. Le duc d'Anjou avait rejoint son hôte, le duc de Guise, dans cette chambre de la reine de Navarre, où autrefois le Béarnais et de Mouy avaient, à voix basse et la bouche contre l'oreille, arrêté leur projet d'évasion. C'est que le prudent Henri savait bien qu'il existait peu de chambres au Louvre qui ne fussent ménagées de manière à laisser arriver les paroles, même dites à demi-voix, à l'oreille de celui qui avait intérêt à les entendre. Le duc d'Anjou n'ignorait pas non plus ce détail si important, mais complètement séduit par la bonhomie de son frère, il l'oublia ou n'y attacha pas d'importance. Henri III, comme nous venons de le dire, entra dans son observatoire au moment où, de son côté, son frère entrait dans la chambre, de sorte qu'aucune des paroles des deux interlocuteurs n'échappa au roi. Eh bien, monseigneur, demanda vivement le duc de Guise. Eh bien, duc, la séance est levée. Vous étiez bien pâle, monseigneur? Visiblement, demanda le duc avec inquiétude. Oh, pour moi, oui, monseigneur. Le roi n'a rien vu? Rien, du moins à ce que je crois. Et Sa Majesté a retenu votre Altesse, et vous l'avez vu, duc. Sans doute pour lui parler de la proposition que j'étais venu lui faire. Oui, monsieur. Il y eut en ce moment un silence assez embarrassant, dont Henri III, placé de manière à ne pas perdre une parole de leur entretien, comprit le sens. Et que dit Sa Majesté, monseigneur? Demanda le duc de Guise. Le roi approuve l'idée, mais plus l'idée est gigantesque, plus un homme tel que vous, mis à la tête de cette idée, lui semble dangereux. Ah, alors nous sommes près d'échouer. Ah, j'en ai peur, mon cher duc, et la ligue me paraît supprimée. Diable, fit le duc, ce serait mourir avant de naître, finir avant d'avoir commencé. Ils ont autant d'esprit l'un que l'autre, dit une voix basse et mordante, retentissant à l'oreille de Henri, penché sur son observatoire. Henri se retourna vivement et vit le grand corps de Chicot courbé pour écouter à son trou comme lui écoutait au sien. Tu m'as suivi, coquin, s'écria le roi. Tais-toi, fit Chicot, en faisant un geste de la main. Tais-toi, mon fils, tu m'empêches d'entendre. Le roi haussa les épaules, mais comme Chicot était à tout prendre le seul être humain auquel il eût entière confiance, il se remit à écouter. Le duc de Guise venait de reprendre la parole. Monseigneur, disait-il, il me semble que dans ce cas, le roi eût tout de suite annoncé son refus. Il m'a fait assez mauvais accueil pour m'oser dire toute sa pensée. Veut-il m'évincer par hasard? Je le crois, dit le prince avec hésitation. Il ruinerait l'entreprise alors. Assurément, reprit le duc d'Anjou, et comme vous avez engagé l'action, j'ai dû vous seconder de toutes mes ressources, et je l'ai fait. En quoi, monseigneur? En ceci que le roi m'a laissé à peu près maître de vivifier ou de tuer à jamais la ligue. Et comment cela? Dit le duc Lorrain, dont le regard étincela malgré lui. Écoutez, cela est toujours soumis à l'approbation des principaux meneurs, vous le comprenez bien. Si, au lieu de vous expulser et de dissoudre la ligue, ils nommaient un chef favorable à l'entreprise, si, au lieu d'élever le duc de Guise à ce poste, il y plaçait le duc d'Anjou. Ah! fit le duc de Guise, qui ne put ni retenir l'exclamation, ni retenir le sang qui lui montait au visage. Bon, dit Chicot, les deux dogues vont se battre sur leurs os. Mais à la grande surprise de Chicot et surtout du roi, qui sur cette matière en savait moins que Chicot, le duc de Guise cessa tout à coup de s'étonner et de s'irriter, et reprenant d'une voix calme et presque joyeuse, Vous êtes un adroit politique, monseigneur, dit-il, si vous avez fait cela. Je l'ai fait, répondit le duc, bien rapidement. Oui, mais il faut le dire, la circonstance m'aidait, et j'en ai profité. Toutefois, mon cher duc, ajouta le prince, rien n'est arrêté, et je n'ai pas voulu conclure avant de vous avoir vu. Comment cela, monseigneur? Parce que je ne sais encore à quoi cela nous mènera. Je le sais bien, moi, dit Chicot. C'est un petit complot, dit Henri en souriant. Et dont monsieur de Morvilliers, qui est toujours si bien informé à ce que tu prétends, ne te parlait cependant pas. Mais laisse-nous écouter, cela devient intéressant. Eh bien, je vais vous le dire, moi, monseigneur, non pas à quoi cela nous mènera, car Dieu seul le sait, mais ce à quoi cela peut nous servir, reprit le duc de Guise. La Ligue est une seconde armée, or, comme je tiens la première, comme mon frère le cardinal tient l'Église, rien ne pourra nous résister tant que nous resterons unis. Sans compter, dit le duc d'Anjou, que je suis l'héritier présomptif de la couronne. Ah, fit Henri. Il a raison, dit Chicot, c'est ta faute, mon fils. Tu sépares toujours les deux chemises de Notre-Dame de Chartres. Puis, monseigneur, tout héritier présomptif de la couronne que vous êtes, calculez les mauvaises chances. Duc, croyez-vous que ce ne soit point fait déjà et que je ne les ai pas 100 fois pesées toutes? Il y a d'abord le roi de Navarre. Oh, il ne m'inquiète pas, celui-là. Il est tout occupé de ses amours avec la fosseuse. Celui-là, monseigneur, celui-là vous disputera jusqu'au cordon de votre bourse. Il est râpé, il est maigre, il est affamé, il ressemble à ces chats de gouttière à qui la simple odeur d'une souris fait passer des nuits entières sur une lucarne, tandis que le chat, engraissé, fourré, emmitouflé, ne peut, tant sa patte est lourde, tirer sa griffe de son fourreau de velours. Le roi de Navarre vous guette, il est à l'affût, il ne perd de vue ni vous, ni votre frère, il a faim de votre trône. Attendez qu'il arrive un accident à celui qui est assis dessus, vous verrez si le chat maigre a des muscles élastiques et si, d'un seul bond, il ne sautera pas pour vous faire sentir sa griffe de peau à Paris. Vous verrez, monseigneur, vous verrez. Un accident à celui qui est assis sur le trône, répéta lentement François en fixant ses yeux interrogateurs sur le duc de Guise. Hé, fit Chicot, écoute Henri, ce Guise dit, ou plutôt va dire, des choses fort instructives et dont je te conseille de faire ton profit. Oui, monseigneur, répéta le duc de Guise, un accident. Les accidents ne sont pas rares dans votre famille, vous le savez comme moi, et peut-être mieux que moi. Tel prince est en bonne santé, qui tout à coup tombe en langueur, tel autre compte encore sur de longues années, qui n'a déjà plus que des heures à vivre. Entends-tu, Henri, entends-tu? Dit Chicot, en prenant la main de Henri, qui, frissonnante, se couvrait d'une sueur froide. Oui, c'est vrai, dit le duc d'Anjou d'une voix si sourde que, pour l'entendre, le roi et Chicot furent forcés de redoubler d'attention. C'est vrai, les princes de ma maison naissent sous des influences fatales. Mais mon frère Henri III, et Dieu merci, valide et saint, il a supporté autrefois les fatigues de la guerre et y a résisté. À plus forte raison, résistera-t-il maintenant que sa vie n'est plus qu'une suite de récréations, récréations qu'il supporte aussi bien qu'il supporta autrefois la guerre? Oui, mais, monseigneur, souvenez-vous d'une chose, reprit le duc, c'est que les récréations auxquelles se livrent les rois de France ne sont pas toujours sans danger. Comment est mort votre père, le roi Henri II, par exemple, lui qui avait échappé heureusement au danger de la guerre, dans une de ces récréations dont vous parlez? Le fer de la lance de Montgomery était une arme courtoise, c'est vrai, mais pour une cuirasse et non pas pour un œil. Aussi, le roi Henri II est mort, et c'est là un accident que je pense. Vous me direz que 15 ans après cet accident, la reine-mère a fait pendre monsieur de Montgomery, qui se croyait en plein bénéfice de prescription, et l'a fait décapiter. Cela est vrai, mais le roi n'en est pas moins mort. Quant à votre frère, le feu duc François, voyez comme sa faiblesse d'esprit lui a fait tort dans l'esprit des peuples. Il est mort bien malheureusement aussi, ce digne prince. Vous l'avouerez, monseigneur, un mal d'oreille, qui diable prendrait cela pour un accident? C'en était un cependant, et des plus graves. Aussi ai-je plus d'une fois entendu dire au camp, par la ville et à la cour même, que cette maladie mortelle avait été versée dans l'oreille du roi François par quelqu'un qu'on avait grand tort d'appeler le hasard, attendu qu'il portait un autre nom très connu. Le duc, murmura François en rougissant. Oui, monseigneur, oui, continua le duc, le nom du roi porte malheur depuis quelque temps. Qui dit roi dit aventuré. Voyez Antoine de Bourbon, c'est bien certainement ce nom de roi qui lui a valu dans l'épaule ce coup d'arquebuse, accident qui, pour tout autre qu'un roi, n'eût été nullement mortel, et à la suite duquel il est cependant mort. L'œil, l'oreille et l'épaule ont causé bien du deuil en France, et cela me rappelle même que votre monsieur de Bussy a fait de jolis vers à cette occasion. Quels vers? Demanda Henri. Allons donc, dit Chicot, est-ce que tu ne les connais pas? Non. Mais tu serais donc décidément un vrai roi que l'on te cache ces choses-là. Je vais te les dire, moi, écoute. Par l'oreille, l'épaule et l'œil, la France eut trois rois au cercueil. Par l'oreille, l'œil et l'épaule, il mourut trois rois dans la Gaule. Mais chut, chut, j'ai dans l'idée que ton frère va dire quelque chose de plus intéressant encore. Mais le dernier vers, je te le dirai plus tard quand M. de Bussy, de son sixain, aura fait un dizain. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il manque deux personnages au tableau de famille. Mais écoute, M. de Guise va parler, et il ne les oubliera point, lui. En effet, en ce moment, le dialogue recommença. Sans compter, monseigneur, reprit le duc de Guise, que l'histoire de vos parents et de vos alliés n'est pas tout entière dans les vers de Bussy. Quand je te le disais, fit Chicot, en poussant Henri du coude, vous oubliez Jeanne d'Albret, la mère du Béarnais, qui est morte par le nez, pour avoir respiré une paire de gants parfumés qu'elle achetait au pont Saint-Michel chez le Florentin, accident bien inattendu et qui surprit d'autant plus tout le monde que l'on connaissait des gens qui, en ce moment-là, avaient bien besoin de cette mort. Nierez-vous, monseigneur, que cette mort vous ait fort surpris? Le duc ne fit d'autre réponse qu'un mouvement de sourcils qui donna à son regard enfoncé une expression plus sombre encore. Et l'accident du roi Charles IX, que votre Altesse oublie, dit le duc, en voilà un, cependant, qui mérite d'être relaté. Lui, ce n'est ni par l'œil, ni par l'oreille, ni par l'épaule, ni par le nez que l'accident l'a saisi, c'est par la bouche. Plaît-il? S'écria François, et Henri III entendit retentir sur le parquet sonore le pas de son frère, qui reculait d'épouvante. Oui, monseigneur, par la bouche, répéta le duc de Guise. Ah, c'est dangereux, les livres de chasse dont les pages sont collées les unes aux autres et qu'on ne peut feuilleter qu'en portant son doigt à sa bouche à chaque instant. Cela corrompt la salive, les vieux bouquins, et un homme, fût-ce le roi, ne va pas loin quand il a la salive corrompue. Duc, duc, répéta deux fois le prince, je crois qu'à plaisir vous forgez des crimes. Des crimes? Demanda Guise. Qui donc vous parle de crimes? Monseigneur, je relate des accidents, voilà tout. Des accidents, entendez-vous bien, il n'a jamais été question d'autre chose que d'accidents. N'est-ce pas aussi un accident que cette aventure arrivée au roi Charles IX à la chasse? Tiens, dit Chicot, voilà du nouveau pour toi qui es chasseur, Henri. Écoute, écoute, ce doit être curieux. Je sais ce que c'est, dit Henri. Oui, mais je ne le sais pas, moi. Je n'étais pas encore présenté à la cour. Laisse-moi donc écouter, mon fils. Vous savez, monseigneur, de quelle chasse je veux parler, continua le prince Lorrain. Je veux parler de cette chasse où, dans la généreuse intention de tuer le sanglier qui revenait sur votre frère, vous fîtes feu avec une telle précipitation qu'au lieu d'atteindre l'animal que vous visiez, vous atteignîtes celui que vous ne visiez pas. Ce coup d'arquebuse, monseigneur, prouve mieux que toute autre chose combien il faut se méfier des accidents. À la cour, en effet, tout le monde connaît votre adresse, monseigneur. Jamais votre Altesse ne manque son coup, et vous avez dû être bien étonné d'avoir manqué le vôtre, surtout lorsque la malveillance a propagé que cette chute du roi sous son cheval pouvait causer sa mort, si le roi de Navarre n'avait si heureusement mis à mort le sanglier que votre Altesse avait manqué, elle. Eh bien, mais, dit le duc d'Anjou, en essayant de reprendre l'assurance que l'ironie du duc de Guise venait de battre si cruellement en brèche, quel intérêt avais-je donc à la mort du roi mon frère, puisque le successeur de Charles IX devait se nommer Henri III? Un instant, monseigneur, entendons-nous, il y avait déjà un trône vacant, celui de Pologne. La mort du roi Charles IX en laissait un autre, celui de France. Sans doute, je le sais bien, votre frère aîné eut incontestablement choisi le trône de France, mais c'était encore un pis-aller fort désirable que le trône de Pologne. Il y a bien des gens qui, à ce qu'on m'assure, ont ambitionné le pauvre petit trônelet du roi de Navarre. Et puis, maintenant, cela vous rapprocherait toujours d'un degré, et c'était alors à vous que profiteraient les accidents. Le roi Henri III est bien revenu de Varsovie en 10 jours. Pourquoi n'eussiez-vous pas fait, en cas d'accident, toujours ce qu'a fait le roi Henri III? Henri III regarda Chicot, qui, à son tour, regarda le roi, non plus avec cette expression de malice ou de sarcasme qu'on lisait d'ordinaire dans l'œil du fou, mais avec un intérêt presque tendre, qui s'effaça presque aussitôt sur son visage bronzé par le soleil du midi. Que concluez-vous, duc? Demanda alors le duc d'Anjou, mettant, ou plutôt essayant de mettre fin à cet entretien dans lequel le duc venait de percer tout le mécontentement du duc de Guise. Monseigneur, je conclus que chaque roi a son accident, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Or vous, vous êtes l'accident inévitable du roi Henri III, surtout si vous êtes chef de la Ligue, attendu qu'être chef de la Ligue, c'est presque être le roi du roi. Sans compter qu'en vous faisant chef de la Ligue, vous supprimez l'accident du règne prochain de votre Altesse, c'est-à-dire le Béarnais. Prochain, l'entends-tu? S'écria Henri III. Ventre de biche, je crois bien que j'entends, dit Chicot. Ainsi, dit le duc de Guise. Ainsi, répéta le duc d'Anjou, j'accepterai. C'est votre avis, n'est-ce pas? Comment donc? Dit le prince Lorrain. Je vous en supplie d'accepter, monseigneur. Et vous, ce soir? Oh, soyez tranquille, depuis ce matin, mes hommes sont en campagne, et ce soir Paris sera curieux. Que fait-on donc ce soir à Paris? Demanda Henri. Comment, tu ne devines pas? Non. Oh, que tu es niais, mon fils! Ce soir, on signe la Ligue, publiquement, s'entend, car il y a longtemps qu'on la signe et qu'on la ressigne en cachette. On attendait que ton aveu. Tu l'as donné ce matin et l'on signe ce soir, ventre de biche. Tu le vois, Henri, tes accidents, car tu en as deux, toi, tes accidents ne perdent pas de temps. C'est bien, dit le duc d'Anjou, à ce soir, duc. Oui, à ce soir, dit Henri. Comment, reprit Chicot, tu t'exposeras à courir les rues de ta capitale ce soir, Henri? Oh, sans doute. Tu as tort, Henri. Pourquoi cela? Gare les accidents. Oh, je serai bien accompagné, sois tranquille. D'ailleurs, viens avec moi. Allons donc, tu me prends pour un huguenot, mon fils? Ah non pas, je suis bon catholique, moi, et je veux signer la Ligue, et cela plutôt 10 fois qu'une, plutôt 100 fois que 10. Les voix du duc d'Anjou et du duc de Guise s'éteignirent. Encore un mot, dit le roi en arrêtant Chicot, qui tardait à s'éloigner. Que penses-tu de tout ceci? Je pense que chacun des rois, vos prédécesseurs, ignorait son accident. Henri II n'avait pas prévu l'œil, François II n'avait pas prévu l'oreille, Antoine de Bourbon n'avait pas prévu l'épaule, Jeanne d'Albret n'avait pas prévu le nez, Charles IX n'avait pas prévu la bouche. Vous avez donc un grand avantage sur eux, maître Henri, car, ventre de biche, vous connaissez votre frère, n'est-ce pas, sire? Oui, dit Henri, et par la mordieu, avant peu. On s'en apercevra.